Vous écoutez France Culture.
Bonjour Sylvain, le Salon Noir. Le visage d'un Jules César vieillissant est sans nul doute la découverte de l'année 2008. Exhumé des eaux sombres et boueuses du Rhône, la découverte nous révèle une fois encore le passé d'une des grandes cités antiques du Midi, Arles. Ce buste de César a bien entendu fait le tour du monde des rédactions, nous en avions parlé en son temps. Mais peut-on, et avec un peu de recul, réintégrer cette découverte dans son contexte pour mieux la mettre en perspective ? Pour cela, j'ai rencontré son découvreur, Luc Long, conservateur en chef du patrimoine au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture et auteur d'un beau livre, Les secrets du Rhône, chez Actes Sud, bien entendu. Luc Long, bonjour. Je le disais à l'instant, Arles n'est pas n'importe quelle cité durant l'époque romaine. Une petite Rome des Gaules.
Oui, c'est le terme qu'emploie le poète bordelais Ozone au IVe siècle pour la qualifier. En effet, lorsqu'il fait le compte-rendu des grandes cités de l'Empire en Gaule, et elle apparaît en effet à la deuxième place en Gaule à ce moment-là. Effectivement, elle a hérité du territoire de Marseille et elle pilote désormais tout le commerce maritime et fluvial, puisqu'elle est la tête de pont en fait, entre le poumon de l'Empire, la Méditerranée, et le fleuve, le Rhône, qui permet de faire acheminer toutes les denrées, les marchandises, mais aussi les passagers, les voyageurs, les idées, les militaires vers l'Europe, vers la Germanie, etc. Donc c'est vrai que c'est une ville qui a un très très riche passé antique et qui mérite en effet, je pense, ce terme qui la qualifie à l'époque d'Ozone.
L'entrée des Bouches du Rhône n'est bien sûr pas évidente. Et d'ailleurs, vous avez retrouvé nombre d'épaves en mer et particulièrement au Sainte-Marie-de-la-Mer, sur une sorte de long cordon où ces bateaux seraient venus s'échouer.
Oui, alors on a commencé les fouilles en Camargue depuis une vingtaine d'années. Elles ont livré très vite des épaves en mer. D'abord des épaves du XVIIe, XVIIIe siècle, pour lesquelles, en tout cas pour une partie d'entre elles, on a retrouvé effectivement les textes d'archives qui nous permettent de connaître exactement leur lieu de naufrage, à l'époque en tout cas, et leur profondeur. Il se trouve que ces épaves, modernes en tout cas, sont aujourd'hui dans environ 7 mètres d'eau, à 700 ou 800 mètres du bord. Dans les textes d'archives qui mentionnent leur sinistre, leur échouage, en fait, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus près du bord. Elles sont environ à 150 mètres du bord. C'est-à-dire qu'en fait, on a un phénomène de transgression marine. La mer a avancé, a rogné le littoral depuis cette période-là. Et on a retrouvé, du coup, aussi, le temps aidant, à partir des années 1992, un certain nombre d'épaves antiques, aujourd'hui on en a une trentaine, qui sont, elles, dans environ 14-15 mètres d'eau. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a certainement le même phénomène d'échouage à l'époque antique que ce n'est le cas déjà pour les bateaux plus récents. C'est-à-dire qu'en fait, il existe, et c'est de manière séculaire, trois bandes de sable qui sont disposées parallèlement à la côte. Le premier est à 50 mètres du bord. D'ailleurs, les gens qui vont se baigner sur les plages d'Arles le connaissent très bien. On peut accéder à ce banc. Le deuxième est à 150 mètres du bord. C'est en général sur celui-ci que viennent s'échouer les navires. Le troisième, qui est sans doute à l'origine du naufrage ou du sinistre, est à 300 mètres du bord, avec 2 mètres d'eau au-dessus ou 2,50 mètres d'eau. Donc par tempête, évidemment, ces bateaux, et ça on le sait par les textes d'archives sur les navires modernes, ces bateaux viennent casser leurs quilles sur ce banc de sable, et ensuite les déferlantes viennent les pousser en travers à la houle jusqu'au deuxième banc de sable, donc celui qui est au milieu, environ à 150 mètres du bord, sur lequel ils viennent mourir. Et donc on est en train de remettre, grâce à la découverte de ces épaves, à la fois je veux dire, de remettre du nouveau, d'apporter du nouveau sur le commerce maritime, mais sur en même temps une nouvelle, je dirais, image du littoral à l'époque antique et une articulation avec finalement ce que j'appellerais un avant-port maritime, car dans ce lagon, on a retrouvé plus d'épaves. Les épaves sont à l'extérieur, elles sont venues s'échouer sur les bancs de sable, mais à l'intérieur, des ancres qui signalent le mouillage des navires qui attendaient d'être déchargés, et en même temps des installations.
Luc Long, c'est-à-dire que Arles aurait été bien sûr une sorte de plaque tournante, mais de produits, bien sûr, produits issus de l'ensemble de l'Empire, mais une sorte de plaque tournante redistribuante, pourrait-on dire ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les navires de mer ne peuvent pas remonter le fleuve. Déjà, ils s'échouent avant même de rentrer dans ce grand lagon, dans ce grand avant-port maritime, pour peu qu'ils aient pas su prendre la bonne direction et s'engouffrer, je dirais, dans le gros, dans le passage. Donc, ils vont s'échouer sur les bancs de sable. Ensuite, pour ceux qui vont passer, leur quille importante ne va pas leur permettre de passer la dernière épreuve, qui est la barre transversale du fleuve, où en général, on sait qu'au gros de l'été, la profondeur d'eau ne dépasse pas 1,30 m ou 1,20 m. C'est-à-dire que les bateaux de plus de 20 mètres, les bateaux maritimes romains, ne peuvent pas passer cette limite. Donc, il faut acheminer vers eux d'autres types de navires à fond plat qui, eux, peuvent plus facilement se jouer du piège des embouchures et qui vont, du coup, transvaser les marchandises de ces bateaux de mer dans leur propre cale afin de pouvoir remonter le fleuve jusqu'à Arles et même au-delà de la ville. Donc, c'est le rôle d'Arles, à cette époque-là, de mettre en place une batellerie qui est dotée de navires qui permet effectivement d'aller décharger les bateaux de mer qui ne peuvent pas remonter le fleuve.
Toujours est-il que des remontées d'objets issus du Rhône, il y en eut quantité, et ça depuis le XVIe siècle. Vous avez trouvé quantité d'épaves, justement, à Arles, dans le Rhône ?
Alors oui, en fait, on a trouvé depuis 2007, à la faveur d'une eau très claire, on a retrouvé au total une dizaine d'épaves, ce qui représente la plus grosse concentration de navires maritimes et fluvio-maritimes pour une ville fluviale. Comparé à Chalon-sur-Saône, par exemple, ou à Lyon, ou même à Vienne. Et parmi cette dizaine d'épaves, on a, quatre types de navires. On a d'abord des radeaux, qui effectivement appartiennent à une navigation primaire, je dirais, un espace nautique particulier. Ces radeaux servent à la pêche. Ils sont constitués de trois planches longitudinales, des brelles. Donc, on est dans le stade de la pirogue évoluée, hein, pirogue assemblée. Il y a aussi des éléments d'un navire maritime en cours de découpage, puisqu'il s'agit d'un élément de plus de 2 mètres, d'un navire à quille avec une contre-quille qui a été découpée sur place. Ensuite, il y a des navires à fond plat du type celtique, ceux que l'on retrouve par exemple dans le lac de Neuchâtel, ceux que l'on retrouve à Chalon et ceux que l'on retrouve à Lyon, à la place Tolosan, c'est-à-dire des navires monoxyles assemblés qui sont constitués d'un fond plat avec des traverses et puis de deux éléments de bois monoxyles qui constituent le flanc du navire. Donc nous en avons deux de ce type, l'un de 20 mètres et l'autre de 30 mètres qui est parfaitement conservé. Et puis alors le quatrième type de navire correspond à des bateaux à fond plat également, mais qui cette fois-ci ne sont pas assemblés par des clous de fer comme c'était le cas des précédents, mais par des tenons et des mortaises, c'est-à-dire selon le principe méditerranéen, des navires de mer. C'est-à-dire que nous avons donc quatre catégories de bateaux qui démontrent tout l'éclectisme, toute la variété d'une batellerie dans un espace nautique particulier qui est effectivement celui de la navigation dans le Baronne et en particulier à Arles, tête de pont entre la Méditerranée et le fleuve.
Alors ces bateaux ou ces navires auraient-ils pu provenir de l'antique pont de bateau qui est bien connu, le pont Navalis des textes ?
Le problème, c'est qu'on connaît ce pont par les textes, évidemment. Un grand nombre d'historiens l'évoquent, parce que c'était effectivement un chef-d'œuvre d'ingénierie à l'époque. Il faut dire que les ponts de bateaux étaient plutôt utilisés dans le domaine militaire. Hein. Là, il s'agit d'un ouvrage qui est nécessaire à Arles, parce que nous sommes dans une partie du fleuve qui est la plus profonde, surtout le long de son cours, avec environ une vingtaine de mètres de profondeur. C'est d'ailleurs le fleuve à cet endroit-là le plus profond d'Europe. Et donc, il est impossible d'y jeter une pile maçonnée. La seule solution, c'est de mettre des bateaux les uns à côté des autres, même relativement espacés, et de mettre en place sur ces bateaux une volée, un platelage, une sorte de route qui va permettre de traverser d'une rive à l'autre. On n'a pas de... Alors, la seule représentation que nous connaissions, j'en parlais tout à l'heure, c'est sur la mosaïque d'Ostie. Mais évidemment, c'est très conventionnel, c'est très peu détaillé. Il s'agit visiblement de navires avec des proues très relevées. Je pense qu'à l'endroit où le navire, où le pont est placé, le jeu du courant nécessite que ces navires soient dotés d'une quille. Cela dit, parmi les bateaux que nous avons trouvés, aucun d'eux ne peut être avec certitude rattaché au pont de bateau. Je pense plutôt d'ailleurs pour ma part qu'il s'agit de navires liés au commerce. L'un d'eux d'ailleurs transporte des blocs de pierre qui viennent de Beaucaire. Et donc, on est certain qu'il ne s'agit pas du tout d'un bateau, du pont de bateau, mais d'un navire qui est affrété au transport de ces pierres, donc une sorte de commerce micro-régional entre Beaucaire, la zone de carrière, et Arles, la région où on va utiliser ces cailloux. Alors, ces cailloux peuvent faire partie, d'après leur module, de la construction. Ils étaient peut-être destinés à des habitations ou tout simplement au renforcement des digues. Mais ils auraient pu aussi servir, pourquoi pas, au lestage des navires. En tout cas, il s'agit d'un bateau qui, pour le coup, est utilisé dans un commerce local.
Alors vous, ce que vous avez trouvé, c'est une liste absolument impressionnante. Chapiteaux corinthiens, têtes, bustes de Neptune, tout ça donc au fond du Rhône, en passant par quelques Junon ou Vénus.
Oui, alors d'abord, on avait commencé à travailler dans le Rhône, dans des zones portuaires, où on trouvait essentiellement des amphores qui avaient été jetées après leur vidage. Donc ces amphores arrivaient depuis le transport maritime, sans doute chargées à bord de ces navires à fond plat jusqu'à Arles. Et là, leur contenu était vidé dans des dolias, dans d'autres types de conteneurs, soit pour la consommation locale d'Arles, soit pour être acheminés sur d'autres bateaux vers les régions plus haut en Gaule, et notamment peut-être vers le Limès germanique, où les légions attendaient ce ravitaillement. Voilà. Donc avec ces amphores, on retrouve aussi de la céramique, celles qui sont les pièces qui sont fissurées, impropres à la vente, et qui sont jetées dans le fleuve, qui sert de poubelle. Et en remontant chaque année de zone en zone, ces zones font 40 mètres de long, nous sommes arrivés dans un autre type de dépotoir, qui n'est plus un dépotoir portuaire, mais visiblement, moi j'appellerais ça plutôt un dépotoir urbain, puisqu'en effet, il y a beaucoup moins d'amphores, mais essentiellement des éléments relatifs aux habitations et aux monuments. Donc des tesselles de mosaïque, des éléments d'enduit peint, des fragments de petites colonnes, mais aussi des colonnes qui mesurent 80 cm de diamètre, c'est-à-dire grosso modo le diamètre de la basilique, enfin des colonnes de la basilique d'Ostie. Et puis évidemment, parmi les éléments, enfin les édifices ou les éléments architectoniques, des chapiteaux corinthiens, enfin au moins un complet d'un mètre de haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la maison carrée de Nîmes. Il faut imaginer des chapiteaux qui culminent à 8 ou 10 mètres de haut, ce qui affiche une monumentalité évidente de ces édifices, avec eux des fragments de colonnes engagées. Donc on a affaire visiblement à des édifices privés. Je parlais de ces colonnes qui appartiennent à des villas résidentielles, mais à des chapiteaux beaucoup plus importants qu'il faut imaginer sur des édifices religieux, donc des temples. Peut-être aussi des édifices publics qui rappellent le charisme du prince et de sa famille. Et au-delà de ces édifices divers, de la statuaire, de la sculpture, qui devait décorer à la fois ces maisons privées, à la fois ces temples et à la fois ces édifices funéraires, peut-être des mausolées, du type de ceux connus, de celui connu à Glanum notamment, et qui donc étaient présentés en bordure du fleuve, où on affiche évidemment sur cette façade ostentatoire la richesse l'importance, je veux dire, du défunt et la richesse de ses héritiers.
C'est parmi toute cette statuaire que vous avez trouvé, Luclon, ce visage de César ?
Oui, alors on a retrouvé dans la statuaire à la fois une représentation d'une effigie de Neptune de près de 2 mètres de haut, diverses têtes de statues ou bustes, des bases de statues aussi, donc beaucoup de divinités, des têtes de Vénus, des pieds qui se rapportent aussi à d'autres statues, elles sont assez répétitives, soit de Bacchus, soit de Neptune à nouveau, et ce fameux portrait que je rattache à Jules César, Tout ça dans un regroupement d'environ 60 mètres de long, un regroupement de statues d'époques diverses où l'on retrouve en effet des éléments relatifs à la période républicaine, ensuite à la période flavienne et puis à des périodes plus tardives qui correspondent finalement aux divers aménagements de la cité sur cette rive, comme d'ailleurs sur les deux rives, hein, c'est-à-dire au moment de César, c'est-à-dire au moment de la création même de la colonie. Ensuite, à l'époque augustéenne, où cette colonie s'agrandit, où on aménage le rempart. Plus tard, à l'époque flavienne, où on détruit les remparts, justement, pour agrandir la ville et mettre en place l'amphithéâtre. Quelques décennies plus tard encore, le cirque. Et à partir du IIIe siècle, d'autres types de reconstructions qui sont liées, cette fois-ci, aux invasions, à diverses vagues successives de destruction, sans doute dues à des barbares, à des peuples barbares, on pense bien sûr aux Germains, qui vont donc entraîner ces destructions. Pendant cette période de troubles, un bon nombre de villas vont être abandonnées ou squattées par des populations plus pauvres. Et sans doute, à nouveau, au IVe siècle, on va reconstruire ce quartier, puisque Ozone, rhéteur bordelais, va remonter le fleuve. Et c'est lui qui va parler de cette petite Rome des Gaules par laquelle on a commencé cet entretien, dont il va dire qu'elle est duplex, qu'elle est double. Donc elle est installée sur les deux rives, ce qui veut bien dire qu'après les destructions, il existe encore sans doute une façade monumentale sur la rive droite du fleuve.
20 représentations de César existeraient, mais une seule serait réellement réaliste et serait à l'heure actuelle à Turin.
Alors on connaît grosso modo, je crois, 250 représentations de César, dont 20 seulement sont véritablement antiques. Il faut dire que César est un personnage qui a été représenté à partir de manière récurrente pendant à partir de la Renaissance et je dirais un peu à toutes les périodes qui suivent. Nous avons environ 20 à 25 portraits considérés aujourd'hui comme des effigies antiques de César, qui sont en grande majorité posthumes, liés à deux grandes séries qui sont appelés par la tête de file de chacune d'elles, Chiaramonti pour la première et Camposanto pour la seconde, c'est-à-dire du nom de la zone où elles ont été conservées. Et une seule de ces représentations de César, visiblement d'après les spécialistes, est d'époque, c'est-à-dire a été faite soit de son vivant, en tout cas soit peu de temps avant sa mort ou peu de temps après sa mort. C'est-à-dire qu'en effet, César y apparaît déjà très affaibli, très amaigri, visiblement très fatigué par l'âge, par les charges du pouvoir. Et ce portrait est celui de Tusculum, conservé aujourd'hui au musée de Turin.
Quels sont les éléments et les critères qui vous permettent de dire que nous avons réellement affaire au visage de Jules César ? Une simple ressemblance ?
Oui, alors en réalité, je me fie donc à ce portrait de Tusculum, qui a été, donc, je disais, aujourd'hui, d'après les spécialistes, qui était la seule représentation de César, soit peu avant sa mort, soit peu après sa mort, parce que certains spécialistes ont avancé l'idée qu'il pouvait s'agir d'une sculpture en marbre, issue peut-être d'une autre sculpture en bronze, elle-même tirée du masque funéraire, donc du masque de cire du dictateur. Cette découverte a été faite en fait par Lucien Bonaparte en 1825 dans le forum de Tusculum. Ensuite, elle a été conservée au musée de Turin, enfin au château d'Allier à côté de Turin. Et c'est en 1940 qu'un archéologue italien, Maurizio Borda, va identifier César à travers elle, en se fiant aux seules représentations que nous connaissions de César, qui sont les monnaies. En effet, César est le seul homme d'État romain, le premier en tout cas, à bénéficier, en tout cas sous la République, c'est une nouveauté, d'une effigie monétaire de son vivant. Donc on connaît un certain nombre de deniers qui ont été faits sous Métius, donc en 44 avant Jésus-Christ, à l'époque où César est encore vivant et qui le représente. Et c'est grâce à ces profils, uniquement des profils bien sûr sur les monnaies, que Maurizio Borda a pu identifier le portrait de Tusculum. Alors pour revenir à celui du Rhône, en effet, celui du Rhône représente un homme d'État grâce à l'impression, à l'énergie qui se dégage, à la gravita, la severita qui se dégage du regard de ce personnage. Mais on y reconnaît en même temps un certain nombre de traits caractéristiques qui sont communs aux monnaies et aux portraits de Tusculum, c'est-à-dire les traits, les rides d'expression et les rides de la vieillesse, notamment au niveau du cou, un certain nombre de plis très marquée au niveau du cou, la pomme d'Adam qui est saillante, la forme globale du visage qui se rapproche de celle de Tusculum, mais dont le profil est semblable, absolument semblable, à la fois à celui de Tusculum et à celui des Monet. Donc, en continuant cette comparaison des traits physionomiques, on parlera effectivement aussi, au-delà de la forme générale du visage, des rides nasolabiales, des rides du lion qui sont au-dessus des yeux, des rides sur le front, de la calvitie, avec les deux mêmes golfes dégagés au niveau de la calvitie. Tout ça constitue effectivement, je dirais, les marqueurs, les traits caractéristiques de la physionomie de Jules César.
Luc Long, Jules César était frappé d'une déformité crânienne, dû à un traumatisme d'enfance. Le réalisme des deux sculptures permet-il de reconnaître ce trait ?
Alors, c'est Maurice Borda le premier qui, en identifiant le portrait de Tusculum à celui de César grâce au Monet, a pu faire la comparaison entre, en effet, puisqu'il s'agit sur les Monet que d'un simple profil, la forme légèrement encellée, c'est-à-dire légèrement creusée de la tête qui apparaît sur les effigies monétaires, et celle qui apparaît beaucoup plus nette encore sur le portrait de Tusculum. Donc ce trait caractéristique de l'encellement du crâne est ce que les médecins légistes appellent la kinocéphalie. Et par ailleurs, sur le portrait de Tusculum, alors ce qu'on ne voit pas sur les Monet, parce que sur les Monet c'est comme profil, mais c'est bien évident sur le portrait de Tusculum, c'est une difformité, c'est-à-dire un os pariétal beaucoup plus enflé, je dirais, beaucoup plus volumineux sur le côté, la partie gauche du crâne, que les spécialistes appellent la plagiocéphalie. Alors, il se trouve que sur le portrait du Rhône, les cheveux sur le sommet du crâne masquent, je dirais, l'encellement que l'on connaît sur le portrait de Turin. Par contre, les spécialistes avec qui je travaille au niveau de la médecine médico-légale reconnaissent une hypertrophie temporale qui est caractéristique aux deux portraits, à celui de Turin et à celui du Rhône, et qui pourrait constituer une sorte de, on va dire en effet, oui, une marque de fabrique. Peut-être liée à un traumatisme à la naissance, c'est une possibilité qu'avait déjà évoquée en son temps, en 1940, Maurizio Borda.
Une sorte de signature. Luc Long, est-ce que la communauté des antiquisants a adhéré à cette identification ?
Alors, il se trouve que j'ai dû travailler dans la confidentialité la plus totale à l'époque, puisqu'il s'agissait de sécuriser le site qui était l'objet de pillages, et les pirates qui étaient surveillés eux-mêmes par les douanes surveillaient notre équipe et attendaient effectivement qu'on libère le terrain pour intervenir. Sécurisation du site a pris du temps et du coup je n'avais pas la possibilité de communiquer beaucoup avec les collègues, avec la communauté scientifique. Donc j'ai dû trier sur le volet, dans le plus grand secret, les spécialistes avec lesquels j'allais m'entretenir de cette découverte, et notamment deux d'entre eux qui me paraissaient les meilleurs spécialistes d'après la bibliographie que j'avais pu me constituer pendant ces quelques mois. Le premier, qui est un francophone, Jean-Charles Balti. Le second, qui est danois, qui a passé 30 ans de sa vie à étudier César, et qui est donc Flemming Johansen. Alors, Jean-Charles Balti pensait comme moi qu'il s'agissait de Jules César. Cela dit, il fallait être prudent, et c'était Jules César à 90%. Pour Flemming Johansen, je dirais que c'était Jules César à coup sûr à 110%. Donc j'étais relativement satisfait dans l'ensemble, même s'il faut toujours émettre des doutes sur une découverte pareille, puisqu'il n'y a aucune signature, et qu'aujourd'hui tous les portraits de César sont encore sujets à caution et sont remis en cause régulièrement. En tout cas, j'avais malgré tout un aval, je dirais, évident avec Flemming Johansen, un peu plus prudent de Jean-Charles Balti, mais qui me laissait penser que j'étais tout de même sur la bonne voie.
Reste à savoir pourquoi avoir jeté cette statue dans le Rhône. Peut-être un acte anti-césarien, une sorte de damnatio memoriae, cet acte si fréquent avec les empereurs posthumes.
Alors ça, c'est ce que j'ai longtemps pensé, parce que en effet, je partais du principe que nous n'avions aucune représentation de César vivant, excepté le masque de Tusculum, qui a peut-être été fait peu après la mort de César, et tous les autres portraits sont posthumes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été faits à partir de l'époque augustéenne, et que l'on retrouve d'ailleurs dans la physionomie globale de ces portraits, les Chiaramonte et Camposante, quelques traits caractéristiques et subliminaux d'Auguste lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, César est divinisé. Les conventions dans l'art du portrait romain ont changé. On n'est plus dans le réalisme de l'époque républicaine, ce que Jean-Charles Valti appelle le vérisme bourgeois, où l'on peut représenter les Romains qui ont un rôle important au niveau de l'État avec leurs défauts physiques et corporels. Non, à ce moment-là, effectivement, on va représenter avec un certain nombre de conventions les représentants de l'État. Et donc les portraits d'Auguste eux-mêmes vont être mécanisés, comme le seront d'ailleurs les portraits de César, qui sont désormais la représentation du pater patrias, donc le père de la patrie, le père de la dynastie julio-claudienne. Alors c'est pour cette raison que tous ces portraits de César sont posthumes et que je suppose du coup que s'il n'existe aucun portrait vivant de César, c'est qu'ils ont été détruits, c'est qu'il n'en reste aucune trace et qu'on peut peut-être déjà plus ou moins avancer l'idée d'une damnation mémoriée. Alors, je dirais plutôt des actes isolés qui, pendant la période de troubles qui succède immédiatement à la mort de César, le 15 mars 44, pendant le moment où, le court instant où les restaurateurs de la République vont penser que leur rêve est possible, on va mettre à bas, on va jeter au sol toutes les représentations du dictateur. Ça arrive encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, c'était le cas en Irak. Alors j'ai pensé qu'effectivement, un ancien partisan de Pompée ou un adorateur de la République aurait très bien pu, par un acte isolé, au lieu de le casser à la masse, jeter l'effigie de César dans le Rhône, qui représente le même gouffre abyssal, le même oubli que le marteau. Cela dit, les fouilles que nous avons menées cette année nous renvoient vers d'autres hypothèses qui font qu'on a plutôt affaire à un regroupement d'objets un peu plus tardif, et qui laisse penser qu'il s'agit soit de la récupération d'objets par des chaufourniers, soit peut-être de l'utilisation d'objets dans des remblais, au moment où il a fallu très rapidement lutter contre le fleuve et constituer des levées de terre, des remblais de terrain dans lesquels il fallait constituer une sorte de blocage avec des éléments architectoniques et pourquoi pas des éléments de sculpture. Donc on envisage d'autres possibilités que celles que j'avais imaginées au tout début et qui correspondaient à cette sorte de très romantique, je dirais, mémoria damnatio de Jules César.
Luc Long, merci. Pour tout savoir sur ce visage et les fouilles subaquatiques d'Arles, à découvrir Le secret du Rhône, les trésors archéologiques d'Arles, édité chez Actes Sud. Le Salon Noir était réalisé par Brigitte Léo, à la technique Vincent Renet. Le Salon Noir, une coproduction France Culture, sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie archétiste du ministère de la Culture. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain à 14h, où vous pourrez retrouver Science et conscience de Philippe Petit, mais dans quelques instants à 15h, à plus d'un titre par Toufik Hakem et Jacques Munier.